Bonjour à toutes, bonjour à tous. Permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une bonne rentrée après des vacances que j'espère avoir été reposantes, même si du fait des soutenances, c'est sans doute déjà pour certains un vieux souvenir. Dans le cadre du SAS 5e année, je suis en charge de la coordination du cours commun droit et société. Alors pour rappel, le SAS est ce qui permet de maintenir au-delà des spécialités entre lesquelles vous êtes ventilé l'esprit diplôme d'école propre à Sciences Po Lyon, puisque même limité au SAS qui ouvre la 5e année, ce maintien d'une touche commune distingue votre diplôme de master qui, eux, seraient très clairement spécialisés. Et dans le cadre du SAS, a été institué ce cours commun droit et société qui permet de croiser les regards juridiques, mais pas seulement, sur une thématique commune à certains de vos enseignants. Alors, ces deux dernières années, ce cours portait ainsi sur la peine de mort. Puisque le sujet doit tourner, il m'est apparu que la question des rapports du droit avec l'anarchie pouvait faire l'objet d'analyses variées, puisque, vous vous en rappelez peut-être, je suis juriste, mais je m'intéresse aux rapports du droit avec l'anarchie, et les travaux de certains de mes collègues, en lien avec l'anarchie, nous ont convaincus de l'intérêt de vous présenter ce cours. Alors, celui-ci s'articulera en 8 podcasts, d'une vingtaine de minutes chacun, présentés par moi-même pour les deux premiers, Emmanuel Jousse, Nicolas Sigoyot, Nina Buratin, Philippe Corcu, qui en fera deux lui aussi, et Laurent Thionquet. À ces podcasts seront ajoutés quelques compléments spécifiques sous forme d'articles et vidéos qui viendront nourrir la partie autonomie du cours, ainsi que des prolongements plus généraux pour vous permettre d'aller plus loin si le sujet vous intéresse. Après l'écoute de chacun des podcasts, vous devez remplir un QCM d'auto-évaluation qui, au passage, conditionne l'écoute du podcast suivant, selon un parcours qui a été déterminé par nous. La somme des notes de QCM composera votre note personnelle, à laquelle s'ajoutera ensuite une note collective dont nous reparlerons plus tard lors de la séance en amphi du 3 septembre à 14h. Alors, je commence donc ce premier podcast par une présentation générale des rapports de l'anarchie avec le droit. Alors, autant le dire, ces rapports sont a priori contre-intuitifs, en particulier chez les juristes. Si l'on considère l'anarchie, littéralement anarché, absence d'autorité, de commandement, comme absence d'ordre, donc synonyme de désordre. Or, le droit dérive du bas latin directus, en ligne droite, qui désigne assez vite ce qui est juste, donc en ordre. Si l'État est en outre défini, par exemple, par un Georges Burdeau, comme l'invention des hommes pour ne pas obéir aux hommes, mais aussi dans le cadre de l'état de droit comme le garant du respect des droits et libertés publiques, certains manuels de droit concluent encore aujourd'hui de l'hostilité des anarchistes à l'égard de l'État à une hostilité encore plus fondamentale envers le droit, ce qui justifierait donc pour les juristes de ne pas considérer l'anarchie. Précisant au passage que le droit est lui-même un artefact, c'est-à-dire un outil créé par les hommes pour servir à leurs besoins et en particulier réguler leurs relations. Ceci étant, on peut admettre que les anarchistes tendaient en quelque sorte le bâton pour se faire battre, puisque l'un des premiers, Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, disait par exemple « Quoique très ami de l'ordre, je suis anarchiste », suggérant donc que les deux étaient difficilement conciliables. Mais le même expliquait ensuite non seulement qu'il était possible d'envisager l'ordre sans pouvoir, ce qui reste au cœur de l'idée anarchiste, mais il donnait surtout deux définitions de l'anarchie, l'une destructive, effectivement, qui remet en cause tous nos préjugés, et l'autre constructive, cette dernière consistant précisément en la recherche d'un autre ordre que l'ordre étatique, ce qui m'a permis, au passage, il y a quelques années, de montrer dans ma thèse qu'il y a bien une pensée juridique chez cet anarchiste, qui se marque en particulier par une réflexion très approfondie sur les sources du droit, après qu'il a récusé la loi étatique. Encore au début du XXe siècle, quelqu'un qu'on ne pouvait pas soupçonner d'affinité avec l'anarchie, Max Weber, pouvait écrire à propos de l'exclusion des socialistes hors des chaires universitaires de son temps, et il écrivait ça contre un collègue qui disait justement qu'il lui était totalement impossible d'accepter qu'un anarchiste occupât une chaire de droit, puisque l'anarchie niait la validité du droit comme tel. Eh bien Weber répondait « Je suis personnellement de l'avis exactement inverse. En effet, il n'y a pas de doute qu'un anarchiste peut être un bon connaisseur du droit. Et s'il l'est, le point où il se trouve placé en vertu de sa conviction objective, située en dehors des convictions et des présuppositions qui paraissent si évidentes à nous autres, peut lui donner l'occasion de découvrir dans les intuitions fondamentales de la théorie courante du droit une problématique qui échappe à tous ceux pour lesquels elles sont par trop évidentes. En effet, concluait Weber, le doute le plus radical est le père de la connaissance, et donc parce que l'anarchiste doute de l'État, l'État oppressif jusqu'à la fin du XIXe siècle, mais encore aujourd'hui l'État providence ou ce qu'il en reste, c'est-à-dire un État fondé sur un système de protection sociale qui va littéralement prendre en charge l'individu, eh bien si l'anarchiste doute l'État, il peut avoir des choses intéressantes à dire du droit. Bon, c'est globalement ce dont il sera question ici, l'absence d'ordre n'étant pour les anarchistes un mot d'ordre que s'il est question d'en trouver un autre ordre, bref, de substituer à l'ordre étatique un ordre social. Je précise que James Scott, qui est un anthropologue anarchiste, parle lui d'ordre politique pour décrire l'État, afin précisément de ne pas laisser croire qu'il n'existerait hors de l'État que le désordre pur et simple. Parce que l'anarchie n'est pas l'anomie, c'est-à-dire l'absence de normes, ni une forme de nihilisme, à entendre à la fois au sens de négation de toute croyance et de refus de toute contrainte, elle peut nous aider à comprendre le droit et ses effets. L'anarchie dénonce en effet, depuis ses origines, la prétention de l'État à savoir mieux que l'individu ce qui lui convient et ce qui est bon pour lui. L'État lui-même est fondé, vous le savez, sur l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, et qu'il ait besoin, entre les hommes, de la puissance de l'État pour leur éviter de se nuire, ce qui est la base des théories du contrat social. Le droit étatique est présenté, je dirais même légitimé, contre la peur du chaos de l'état de nature, présenté comme anarchique, de sorte qu'on justifie le droit étatique avant tout par les nécessités de l'ordre, plus que par des exigences de justice, d'égalité ou de liberté. Et d'ailleurs, les anarchistes interrogent d'emblée, dès le début du XIXe siècle, cette incongruité pour la Révolution, de poser la liberté, et la liberté c'est pas la licence, le droit de faire n'importe quoi, poser la liberté, mais tout en l'encadrant par des normes et par des sanctions. Au milieu du XIXe siècle, Proudhon dénonce la constitution politique, externe à la puissance sociale, fondée sur l'image d'une société comme une masse informe et désarticulée, sans idée collective, sans identité collective autonome et incapable de s'organiser. Voyez ce qu'il dit. Les constitutions reposent sur l'idée préconçue que la société ne marche pas seule, ne possède en soi ni virtualité, ni harmonie, la puissance, de même que la direction, ne lui venant que d'en haut, c'est-à-dire de l'État. Ce sont donc les théories de l'État qui postulent l'antagonisme comme condition essentielle de l'humanité, rendant nécessaire l'intervention d'une forme coercitive entre les forts et les faibles. Renversant le postulat de Hobbes, Proudhon affirme, avant Marx, que ce n'est pas la lutte qui amène l'État, mais c'est l'État qui crée les stratifications et les divisions qui provoquent la lutte. L'idée à retenir est que c'est en somme l'État qui a besoin du chaos, comme d'un repoussoir qui vient le légitimer, plus que l'anarchie. En 1971, le philosophe libertarien Robert Nozick écrivait dans « Anarchie, droit et utopie » que la question centrale de la philosophie politique ne devrait pas être « comment organiser l'État », mais l'existence même de l'État, autrement dit, pourquoi l'État plutôt que l'anarchie. Aujourd'hui encore, l'origine de l'État est un impensé des ouvrages de droit constitutionnel, de sorte qu'il reste une nécessité incontestée qui exclut tout regard porté sur les théories anarchistes. Puisque j'évoquais la notion d'État de nature, on sait que c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'on a commencé à réfléchir à la notion d'État de droit, soit un État dont l'action est encadrée, bornée dans et par le droit, pour se présenter comme le garant des droits et libertés individuelles et collectives. Mais est-ce que le droit est bien une limite pour l'État quand c'est lui, l'État, qui le produit, ce droit qui est pourtant censé l'encadrer ? Léon Duguit, qui est un juriste du début du XXe siècle, a été considéré par ses pairs comme un anarchiste de la chaire universitaire, parce qu'il considérait que l'état de droit n'était qu'une illusion, la limitation de l'État par le droit n'étant en réalité qu'une auto-limitation que l'État pourrait tout aussi bien décider de transgresser dès lors qu'il le voudrait. C'est aussi l'analyse contemporaine de René Berthier, qui est un militant anarchiste et spécialiste de Kropotkin. Kropotkin était un géographe anarchiste russe du tournant du XXe siècle. Il a vécu entre 1842 et 1921. Berthier considère que la notion d'état de droit dépend en réalité de l'endroit où on met la majuscule. Je cite Berthier. « On pourrait penser que l'expression état de droit avec un E minuscule était formée sur le même modèle que l'état de nature, et désignait un environnement politique dans lequel les rapports entre les individus étaient soumis non pas à l'arbitraire, mais à des règles applicables également pour tous. Mais il est significatif que l'expression ait pris la forme d'État avec un E majuscule de droit, ce qui suggère que seul l'État est en mesure d'édicter le droit, c'est-à-dire des rapports non arbitraires. L'État devient la seule source, le seul garant et la seule finalité du droit. Il s'agit d'une véritable récupération étatique d'un concept qui, en pratique, ne présuppose pas automatiquement la puissance de l'État. L'État de droit devient ainsi le droit de l'État. Dans l'expression « état de droit » avec une minuscule, c'est la notion de droit qui est déterminante. Alors que dans l'expression « état » majuscule de droit, le droit n'est qu'un qualificatif parmi d'autres de l'État. Il n'y a plus de droit qui ne soit sanctionné que par l'État. De sorte que toute contestation du droit, même le plus inique, dès lors qu'il est édicté par l'État, devient une contestation de l'État, donc suspecte de terrorisme. On ne peut plus se réclamer d'un droit qui se situerait au-dessus du droit de l'État. J'ajouterai à cette réflexion de Berthier qu'on ne peut pas non plus se réclamer d'un droit qui se situerait en dessous de l'État, puisque les théories étatistes contestent souvent l'idée d'un pluralisme juridique, de plusieurs ordres juridiques qui pourraient coexister. Quant à moi, je me dis donc que la majuscule devrait être à droit plutôt qu'à État, si on prétend que dans l'État de droit, c'est bien ce dernier, le droit, qui limite l'État. La critique anarchiste articule une critique de la domination de l'État exercée par un pouvoir séparé de la société, à laquelle la critique oppose l'existence de communautés, associations émancipatrices, décentralisées, autogérées, qui vont générer leurs propres droits. Ce droit social que Georges Gurvitch, qui était un sociologue du droit, qui a vécu entre 1894 et 1965, Georges Gurvitch trouvait justement des traces de ce droit social chez Pierre-Joseph Proudhon. Dans leur critique, les anarchistes dénoncent d'emblée le trop grand nombre de lois qui enserrent la liberté individuelle, mais sans atteindre également tous les individus. Je cite Proudhon, « Des lois, on sait ce qu'elles sont et ce qu'elles valent, toile d'araignée pour les puissants et les riches, chaîne qu'aucun acier ne saurait rompre pour les petits et les pauvres, filet de pêche entre les mains du gouvernement. » Aujourd'hui, nombreux sont les juristes à déplorer le trop grand nombre de lois. Ils parlent d'inflation législative, de boulimie normative, en vertu de laquelle l'État marque une sorte de défiance vis-à-vis de l'individu, ce qui a fait dire à deux de mes collègues « Le législateur croit en la loi, mais il ne croit pas en l'individu ». L'État-providence apparaît de ce point de vue-là comme l'exacerbation d'une situation où le citoyen attend tout de l'État. Et cette inquiétude, inspirée à Guy Carcassonne, qui était constitutionnaliste, il a vécu entre 1951 et 2013, une mise en garde sur la prolifération de règles qui prétendent protéger le citoyen contre à peu près tout, y compris et surtout contre lui-même. Or justement, l'anarchie croit assez en l'individu et en son sens des responsabilités pour refuser d'imaginer qu'il n'agit que sous la menace d'une sanction. Dans un texte qui s'intitule « La loi et l'autorité » 1892, Kropotkin précise cette idée à partir d'une intéressante citation. Voilà la citation. « Quand l'ignorance est au sein des sociétés et le désordre dans les esprits, les lois deviennent nombreuses. Les hommes attendent tout de la législation et chaque loi nouvelle étant un nouveau mécompte, ils sont portés à lui demander sans cesse ce qui ne peut venir que d'eux-mêmes, de leur éducation, de l'état de leurs mœurs. » Et Kropotkin commente. Ce n'est pourtant pas un révolutionnaire qui dit cela, pas même un réformateur, c'est un jurisconsulte, Dalloz, le Dalloz des codes que vous connaissez peut-être. Et pourtant, ces lignes, quoique écrites par un homme qui était lui-même un législateur et un admirateur des lois, représentent parfaitement l'état anormal de nos sociétés. Dans les états actuels, une loi nouvelle est considérée comme un remède à tous les maux. Au lieu de changer soi-même ce qui est mauvais, on commence par demander une loi qui le change. Vous avez observé au passage, aujourd'hui encore, comment chaque fait divers donne lieu de la part des politiques à des demandes de réforme de la législation pénale, alors que l'arsenal pénal est déjà suffisamment plein. Mais la question se pose aujourd'hui, qui se pose aujourd'hui, est surtout de se demander si, avec l'État-providence, on est encore dans la logique de commandement qui est inhérente à l'État et dont le droit est, pour les juristes, le principal vecteur. De nombreuses critiques dénoncent en effet une dégénérescence de la forme juridique, une direction juridique non autoritaire des conduites qui vise à convaincre plutôt qu'à contraindre, qui encadre moins les comportements qu'elle vise à atteindre des objectifs, des techniques opérationnelles de gestion, on parle de gouvernance aujourd'hui plus que de gouvernement, qui font passer au second plan l'objectif de limitation du pouvoir, qui était pourtant au cœur de l'ordre juridique libéral de l'état de droit. Dans le contexte contemporain et avec une pointe de provocation, ne peut-on pas en outre se demander si l'ordre posé, imposé par la loi, ne serait pas lui-même vecteur de désordre, puisqu'il prévoit lui-même cet ordre étatique, le fait de n'être pas suivi, si l'on en juge par le fait que des sanctions sont d'emblée associées à la loi, du fait de l'hypothèse, a priori, de la violation inévitable de celle-ci. De même, le phénomène d'inflation normative apparaît lié au fait qu'il faut manifestement toujours plus de règles pour contenir les débordements suscités par les dites règles. Non pas bien sûr que les anarchistes aient une vision naïve, utopiste, de l'homme et de la société, société anarchiste dans laquelle les conflits n'existeraient pas. Bien au contraire, ils tiennent compte de ces conflits. Mais l'idée est que c'est le système étatique, je devrais dire aussi capitaliste, qui suppose l'arsenal normatif pour se protéger, de sorte que si on sort de ce système, la nécessité de cet arsenal normatif se fera moins sentir. Mais ça ne suppose pas la disparition des règles. Comme le dit Mehdi Belhaj-Kassem, être anarchiste, c'est créer à tout instant des règles avec autrui, et pas simplement s'opposer à un système de règles, les règles étatiques. Dans ce qui est un rapport d'intérêts contraires, il est évident que les conflits n'ont pas vocation à être supprimés. Ils restent même la base de la naissance et du développement du droit, ce que Proudhon tentait de démontrer dans un texte qui a mal été compris, qui s'appelle « La guerre et la paix », qui paraît en 1861, et que souligne encore mieux le juriste allemand Rudolf von Jhering, qui a vécu entre 1818 et 1892, dans un texte qui s'intitule « La lutte pour le droit » et qui paraît en 1872. Encore aujourd'hui, le droit est considéré par des sociologues et des juristes comme une arme à double tranchant. Il est certes ce qui vient vous contrôler et du coup vous contenir, mais il peut aussi être ce qui va vous protéger. On a pu utiliser cette métaphore, dire du droit qu'il est une sorte de scalpel. Il est à la fois ce qui peut vous soigner, mais il est aussi ce qui peut vous tuer. En même temps que sont combattues des formes de régulation hétéronomes, c'est-à-dire déterminées et imposées par l'État d'en haut, l'idée est de leur substituer des formes autonomes, négociées. Et de ce point de vue-là, les principes d'un droit anarchiste seraient l'autonomie, décidée ensemble du contenu des règles, l'horizontalité, par opposition à la verticalité de la domination, la mutualité, ce que Kropotkin appelle par exemple l'entraide, la conciliation, la médiation. Comme je l'ai écrit par ailleurs, l'anarchie permet de penser des normes négociées dont l'élaboration est collective et plurivoque à plusieurs voix venant d'en bas et qu'on va substituer aux formes univoques de la loi étatique imposée d'en haut. De rapport de force, le droit tel qu'il est ainsi pensé devient plutôt un rapport de réciprocité. Des alternatives sont là dans les interstices des structures de la société étatique et il me semble que si on les regarde différemment, certaines réalités juridiques contemporaines font écho à la vieille critique anarchiste. En effet, celle-ci n'apparaît plus complètement étrangère à certaines évolutions contemporaines du droit où on assiste au développement d'un droit négocié, de l'autorégulation, au passage de formes autoritaires, hiérarchiques, verticales de pouvoir à des formes négociées, réticulaires, horizontales. Mais cela pose alors aux juristes la question de la légitimité de la prise de décision et de l'assurance que sans l'État, les compromis ne seront pas systématiquement imposés par les plus puissants. Ce sentiment d'une perte de contrôle liée à la fin du monopole étatique sur le droit peut être consolé si l'on pense avec les anarchistes que c'est l'État et sa législation qui, parfois, sont les vecteurs des inégalités, ce que démontre l'un des derniers ouvrages de Jean-Fabien Spitz, qui n'est pas anarchiste. Impensée, refoulée du droit et particulièrement du droit public, la critique anarchiste devrait être considérée par les juristes dans ce qu'elle est, à mon avis, de plus intéressante, à savoir une invitation à faire de ce qui est évident un problème. Si les juristes refusent de considérer ce que les anarchistes ont à dire du droit, c'est qu'ils restent polarisés sur la seule définition étatique du droit, alors que celle-ci est de moins en moins recevable et reçue dans un monde de globalisation et de mondialisation. Ce qui les empêche de dépasser une vision péjorative de l'anarchie comme synonyme uniquement de désordre. Alors qu'au contraire, déconnecter l'anarchie du désordre, à laquelle on la réduit trop souvent, permet de la rattacher au droit conçu comme moyen pour les hommes de vivre en société. Je m'arrête sur ce point, mais du fait de la persistance de ce préjugé, anarchie égale désordre, Je vais revenir sur cette question de la violence et de la destruction dans le podcast suivant, qui sera consacré à un épisode de l'histoire de l'anarchie, à savoir la propagande par le fait. Merci pour votre attention.